Philippe Migaud, bonjour.
Bonjour.
Le groupe État islamique a perdu la guerre en Syrie et en Irak, mais est-ce qu'il peut ressurgir en Afrique ?
Oui, parce que l'État islamique a besoin de disposer d'une nouvelle base pour faire vivre territorialement le califat. En mars 2015, le porte-parole de l'État islamique, Abou Mohamed al-Adnani, avait annoncé aux Européens et aux Maghrébins que ceux qui ne pouvaient pas rejoindre le djihad en zone syro-irakienne trouvaient un nouveau sanctuaire en Libye et que ce sanctuaire avait deux buts. Le premier, c'était de conquérir l'Afrique et le deuxième, c'était de lancer de nouvelles frappes à travers la Méditerranée contre l'Europe.
Vous parlez de la Libye, mais en août 2016, le groupe État islamique a été chassé de la ville de Sirte.
C'est vrai, mais la bataille de Sirte, elle n'a pas neutralisé les combattants de l'État islamique, elle les a simplement dispersés. Vous avez un millier de Libyens qui ont rejoint leur campement, qui continuent à faire des opérations. Benghazi est la cible d'attentats et autour de Sirte, on a toujours des poses régulières d'engins explosifs improvisés. Vous avez 600 vétérans tunisiens qui essaient de repartir en Tunisie pour y faire des attentats. Et puis vous avez à peu près 750 combattants étrangers en Libye qui, eux, sont dans la région d'Oubari.
Ça, c'est dans le Grand Sud.
Dans le Grand Sud, dans le Fezzan, ou sous la conduite d'un émir irakien. Ils ne sont empêchés d'entrer au Niger par la passe de Salvador que parce qu'elle est contrôlée par des tribus Touareg et Toubou qui ne veulent pas que l'on s'approprie leur trafic.
Est-ce que le groupe État islamique, qui est donc bien implanté en Libye, a des relais jusqu'au Niger et au Mali ?
Oui, il en a au Mali, puisque vous avez une province de l'État islamique près de Ménaka qui s'appelle la province du Grand Sahara, qui compte une centaine d'hommes, qui est capable de mener des actions extrêmement offensives dans la région frontalière de Tillabéri, sur la route de Niamey, comme par exemple l'attaque de Tongo-Tongo, qui avait coûté la vie à 7 soldats nigériens et à 4 forces spéciales américaines en octobre dernier.
Ça, c'est au Niger, en effet, pas très loin de la frontière malienne, 4 soldats américains tués au mois d'octobre dernier.
C'est cela. Et puis vous avez au Burkina Faso un petit groupe au nord qui s'appelle Ansarul Islam, les partisans de l'islam, qui continuent à semer la terreur dans les postes administratifs isolés du nord Burkina Faso et qui sont à peu près une cinquantaine d'individus.
Et puis il y a aussi des relais au Nigeria.
Bah oui, il y a Boko Haram qui, même s'il est séparé en deux branches, peut toujours faire des attentats réguliers, que ce soit sur les îles du lac Tchad, que ça soit au nord Cameroun, que ça soit sur le territoire nigérian, et qui est capable de faire de véritables opérations militaires contre le Niger à partir du nord Nigeria.
Alors face à cette volonté du groupe État islamique de s'étendre au Sahel, comment réagit le groupe rival qui est formé des partisans d'Al-Qaïda ?
Ils ont toujours considéré que le Sahel était leur zone réservée. Et ACMI Sud, Al-Qaïda au Maghreb islamique région sud, a été remplacé en avril dernier par un nouveau groupe qui s'appelle le groupe de défense de l'islam et des croisés dirigé par Iyad Agrali, un Touareg malien. Celui-ci a eu deux succès. Le premier, c'est qu'il a réussi à conforter un djihadisme Touareg entre Kidal et la frontière algérienne. Et surtout, le deuxième succès, c'est qu'il a monté un deuxième djihadisme ethnique avec la population Peul au centre et au sud du Mali, autour de ce qu'on appelle le front de libération du Massina. Depuis cet été, il a remporté un troisième succès. C'est qu'il a réussi à relancer des opérations de frappe à longue distance contre des cibles molles fréquentées par des expatriés. Ça a été l'attentat commis le 14 août dernier à Ouagadougou contre le café Istanbul où 18 personnes ont été tuées, dont deux occidentaux. Et puis peut-être plus inquiétant, c'est le 27 novembre, la veille du discours du président Macron à Ouagadougou. Dans la banlieue de Ouagadougou, un véhicule banalisé des forces spéciales a été ciblé par une attaque à la grenade par deux individus cagoulés, ce qui montre que l'organisation dispose aujourd'hui de sympathisants locaux capables de préparer sur place des actions plus ciblées.
Donc vous disiez Niger, Burkina Faso, Mali. Y a-t-il d'autres pays de la sous-région qui sont menacés ?
Oui, je crois qu'il y a un triple cercle de menaces. Le premier, vous venez de citer les trois pays. Le deuxième cercle de menaces, pour moi, c'est le Tchad, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et je dirais qu'il y a un troisième cercle de menaces aujourd'hui. C'est la Mauritanie, où apparaît la montée en puissance d'un fondamentalisme religieux depuis quelques années, mais aussi le Sénégal, qui voit apparaître pour les prochaines années de puissants facteurs de déstabilisation qui peuvent favoriser la naissance de cellules djihadistes, je pense en particulier à la perte d'influence des sectes soufis qui servaient traditionnellement de rempart au fondamentalisme religieux.
Le Sénégal, où s'est ouvert au mois de décembre un procès, le procès d'une trentaine de djihadistes présumés pour actes de terrorisme et financement du terrorisme. Au Mali, 2017 a été l'année la plus meurtrière depuis le déploiement des forces françaises de Serval, c'était il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que la situation se dégrade ?
Non, je dirais qu'elle est meilleure. Les djihadistes ne disposent plus du contrôle des grands espaces. Ils ne peuvent plus obtenir de taxes de passage de la part des réseaux criminels, de stupéfiants ou de migrants. Et donc, leurs ressources financières sont bien plus réduites qu'en 2013. La deuxième point positif, c'est que certains pays africains ont montré leur capacité à affronter la menace terroriste. Les assaillants de Ouagadougou, par exemple cet été sur l'attaque du Istanbul Café, ont été neutralisés par le groupe d'intervention locale de la gendarmerie nationale. Et ça, c'est un vrai succès.
La gendarmerie du Burkina.
Du Burkina Faso. Et j'irai maintenant, le point essentiel, c'est le EAT, la mise en œuvre opérationnelle du G5 Sahel.
Une mise en œuvre qui tarde à cause du manque de moyens financiers.
Exactement, et de l'immobilisme aussi de certains États.
Philippe Migaud, merci.